pas changé, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Anlo, dans le 11e arrondissement. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Bah, la semaine dernière, je ne sais pas si quelqu'un a écouté, ou je crois que quelqu'un a écouté d'ailleurs, Frédéric Nietzsche, grâce à Nick Stevens, qui nous prépare un Aristote pour le mois de mai ou pour le mois de juin. Bien sûr, on va repasser l'émission au cours des semaines à venir. Promis, juré aujourd'hui, Chantal Galliana, bonjour.
Bonjour.
Voilà, d'où on se connaît, hein, monsieur Franck
Ballandier,
je sais, si on se connaît, voilà. On a eu une petite conversation en aparté, mais vous allez en profiter tout de suite. On parlait de la rue des Envierges, tiens.
Ouais,
ça vous inspire, la rue des Envierges?
Moi, c'est mon quartier depuis 2003. J'habite plus précisément passage du ruisseau de Ménilmontant, donc dans un endroit, j'allais dire, protégé du vieux Paris. Donc c'est vraiment génial. Moi, j'y ai mes habitudes maintenant.
On parlait de la bobotisation de la rue des Envierges, parce que moi, j'ai connu très sauvage.
Carrément.
Très sauvage.
En 2003, j'avais mes habitudes dans un café qui est devenu totalement bobo. Alors bon, pour bien, pas bien, j'en sais rien, je veux pas prendre de parti, mais enfin, en tout cas, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Puis on y trouve maintenant des vedettes, des artistes.
Chantal, non?
Oui, tout à fait, oui.
Ouais.
J'y suis depuis 2000.
Et ça change à vitesse grand V.
Ah, mais moi, quand je m'en vais 15 jours, je reviens, il y a deux galeries, un magasin nouveau, enfin, des trucs comme ça, quoi.
Et le théâtre de Ménilmontant est en train de fermer.
Ça, c'est une catastrophe.
Ça,
c'est vrai. Ça, pour le dire.
Je le dis.
Vous connaissez, non?
Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de gens.
C'est rue du Retrait, en l'occurrence. Et donc, il y a une pétition qui est.
On la signe.
Voilà.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a réussi, grâce à une pétition, à sauver la maison de Casque d'Or. Qui est rue de la Mare, là. Quand on passe, il y a cette belle maison qui est dans le film, la maison de Casque d'Or. On a tous signé et on a réussi. Elle était prête à être rasée.
Manque de subvention, voilà.
Voilà. Mais le théâtre de Ménilmontant, c'est grave. Hein.
Ah oui, c'est largement grave parce que ça drainait un monde et puis des gens du quartier, justement. C'est ça qui était vraiment bien, quoi.
Pourquoi je commence comme ça cette émission à vous lire, etc. Chantal, on verra après, fait partie de la compagnie Louise Lam.
Oui.
Louise Lam, c'est la liberté.
Eh oui, l'amour.
Et où l'amour? C'est pas la liberté.
Et l'amour,
voilà. Donc il y a une scission. Il y a une scission, c'est pas où. Voilà, il y a quelque chose. Donc la compagnie Louise Lam, donc je prépare cette émission et je m'aperçois, je m'aperçois que dans votre livre sur Paris, on va reparler là, le Paris d'Apollinaire, et c'est publié aux éditions Alexandrine, là, on va sauter quelques paragraphes et on tombe sur l'instant, alors là, et c'est pas gratuit, où justement Apollinaire se fait passer pour Louise
Lalanne. Voilà.
Donc c'est pas gratuit, ça, si, à votre avis, Louise Lam et Louise Lalanne?
Ah, je ne sais pas si c'est gratuit ou pas. Enfin, en tout cas, il nous a fait une sacrée supercherie sur le coup. On est un 1er avril, on est en direct. Là, pour le coup, il a fait durer son 1er avril quelques semaines et c'était assez extraordinaire, puisqu'il s'est même déguisé en femme, il s'est fait photographier en femme, en signant donc l'histoire, bon, je la raconte dans le Paris d'Apollinaire, en se faisant passer donc pour une dame, parce que c'était le début de la poésie féminine. Il y avait quelques grands noms qui commençaient à éclore. Et en l'occurrence, là, pour le coup, il signe donc Louise Lalanne. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est pas du tout du Apollinaire, d'autant plus d'ailleurs que deux des trois poèmes qui sont publiés sous ce nom-là sont en fait de sa copine Marie Laurencin à l'époque. Et donc, elle fait partie du subterfuge. C'est génial.
Et vous croyez qu'il y a un hasard entre Louise Lam et Louise Lalanne?
Honnêtement, je sais pas.
C'est dans l'air du temps, quand même. Ouais. C'est quand même dans l'air du temps. Ouais. Hein.
Ça pourrait, mais.
Parce que si on regarde. Attendez, Franck, il est né en 1880.
Ouais, c'est ça.
Robert d'Eston, c'est né en 1900.
En 1900.
C'est-à-dire que lorsque il a 20 temps, mais Robert d'Eston, il tombe dans la lecture d'Apollinaire.
Ah, forcément, mais comme beaucoup d'autres, hein, comme André Gide, comme Aragon, comme tous les jeunes qui sont en train d'éclore sur Paris, puis ailleurs d'ailleurs. Non, en effet, ils peuvent au moins s'être croisés par lecture interposée. Au moins. Mais pour répondre à votre question précisément, je ne suis pas certain qu'il y a un rapport direct.
Mais moi, ça m'est venu.
Je
connais le sujet depuis très très longtemps, l'assure, mais brusquement, ça m'a sauté aux yeux.
Ça peut.
Chantal, donc vous avez fait, vous, un CD entier, avec d'autres d'ailleurs, compagnie Louise Lam, consacré à Robert d'Esnos.
Oui. En fait, on a fait plusieurs CD, et là, c'est une compilation un peu des deux, qui a été choisie par quelqu'un d'autre que nous. Parce que nous, on en a produit un en 2006, qui s'appelait La Belle Saison est Proche, et où on était. En fait, j'avais travaillé à la Péniche Opéra, et c'était avec presque quasiment tous les chanteurs de la Péniche Opéra. Donc il y avait pas mal de voix lyriques. En fait, il y avait beaucoup de voix lyriques sur ce disque-là, et puis moi qui ne suis pas lyrique. Et sur le dernier, c'est un peu l'inverse.
Et qui c'est qui a eu l'idée d'accompagner Louise Lam? C'est vous?
C'est moi.
C'est vous. Donc vous avez lu le livre.
Ah oui,
qu'est-ce stupéfiant.
Mais moi, c'est, en fait, c'est depuis très très longtemps que je suis dans le bain Robert Desnos, quoi. Depuis 86-87.
Livre stupéfiant, il a 27 ans, il écrit comme ça d'une seule traite. Vous l'avez lu?
Non, je ne l'ai pas lu.
Ah, mais ça, alors là, c'est impossible. Alors là, c'est une hérésie.
Ouais, c'est très, très c'est bon, une honte.
Donc vous allez sortir et vous le procurez.
Je vais aller
chez Folio, c'est le texte. Ouais, ouais. Alors, ce qui est très beau, et je crois que Chantal va nous le confirmer, il est encore imprégné de l'ère des sommeils. Il est encore imprégné de l'écriture automatique. Il part d'un point, il va jusqu'au bout. Ouais. Comme ça, c'est pendant des pages et des pages et des pages et des pages. Vous vous souvenez un peu de ce qu'on raconte dans le texte?
Dans La liberté de l'amour, oui. En fait, je me souviens bien du début, parce que c'est d'abord, j'adore les noms, Louise Lam et son amoureux qui s'appelle quand même Corsaire Sanglot.
Corsaire Sanglot, ouais.
C'est quand même assez magnifique. Et c'est une espèce de Louise Lam qui marche comme ça dans Paris et qui, au fur et à mesure, elle enlève ses vêtements. Donc c'est comme un
très très bon plaisir
à la fin elle est nue dans le bois de Boulogne. Enfin, ça commence vers la rue de Rivoli, je crois.
Oui, voilà, c'est hein, ça. Allez-y,
rue de Rivoli. Et puis bon, alors elle marche, il la voit passer, elle marche, il la suit, et enfin le personnage. Voilà, et la suite, puis bon, elle enlève au fur et à mesure ses gants, et puis elle a un manteau. Alors, il est très. Desnos, c'est très, très, très sensuel.
Manteau de léopard, c'est ça ?
Manteau de léopard, oui.
Bien sûr.
Il est très sensuel. Puis alors, à un moment donné, quand il parle du manteau de léopard, il raconte quand ce léopard est arrivé vivant devant chez Louise Lam et qu'il s'est affalé devant sa porte pour lui laisser sa fourrure. Enfin, bon, ça, c'est un texte très, très érotique aussi.
Très, très bon.
Ça devrait me plaire.
Et c'est un très, très grand texte. Et je relisais, c'est très drôle, si vous savez que Robert Desnos a été le plus doué par rapport au sommeil, c'est-à-dire celui qui partait comme à l'aventure. Vous allez vous prononcer là sur le sujet. Il y a une question qui m'a toujours préoccupé, moi, c'est comme ça, mais je ne suis pas le seul. Et donc d'autres ont répondu avant moi, c'est que les gens qui partaient dans les sommeils, comme ça, dans leur écriture, avaient, en écrivant, une syntaxe parfaite. C'est-à-dire, Benjamin Perret dit « Moi je rêve, je pars, j'écris, j'ai une syntaxe parfaite ». Breton fait remarquer que tous ces gens qui rêvent traduisent avec une syntaxe parfaite.
Sans produit stupéfiant alors
là, on ne sait pas. On peut très bien pousser des petits cris, des onomatopées, etc.
Hein. Alors moi, pour le coup, je rêve, hein, mais je n'ai pas, malheureusement, je n'ai pas l'impression d'avoir cette perfection de langage et d'orthographe, éventuellement. L'orthographe, oui, ça va. Mais c'est vrai que je suis un petit... Enfin, moi, j'avoue, je ne devrais pas le dire, mais enfin, on est sur Radio Libertaire, donc on peut tout se permettre. J'avoue avoir eu recours, on va dire, à quelques produits pour m'aider dans l'écriture.
Vous avez votre adresse, votre numéro de téléphone,
je vous la donnerai.
C'est noté sur Radio Libertaire 89.4.
C'est vrai que le rêve favorise un certain nombre de choses.
J'ai posé cette question-là par rapport à la syntaxe et l'inconscient. Quelqu'un m'a dit, mais non, c'est Jung. Alors moi, je ne suis pas très porté là-dessus. A répondu à ça. C'est par rapport à notre inconscient collectif qui est dans nous et on passe par une syntaxe préétablie. Ça, j'en sais rien.
Je crois que Desnos, pour en venir à Desnos, je crois qu'il avait recours pour en revenir à ça, à quelques produits de temps en temps.
Je sais que ça, je pense qu'il l'a fait parce que je crois qu'il y a des. Avec Yvonne Georges, en tout cas, il y a.
Notamment à l'opium.
Je
ne
vais pas d'ailleurs vous dire exactement. Mais...
Ils sont tous passés, hein,
je pense. Oui. Ça m'étonnerait que. Peut-être pas tout le temps, mais
je pense
qu'il n'avait peut-être pas besoin de ça, je pense aussi. Je pense qu'il a essayé quand même.
Ouais. Et ça vous inspire, Guillaume Apollinaire, puisqu'on a un spécialiste là. C'est assez proche de Robert Desnos.
Je sais pas ça, je peux pas dire des choses comme ça, je suis pas capable d'analyser ça, mais j'aime énormément Apollinaire aussi.
En 1919, il a 19 ans. Il écrit « Les putains de Marseille ont des sœurs océanes dont les baisers malsains moisiront vos chairs. Dans les tavernes basses à Norcat, ce zigane fait valser les péris au bruit lourd de la mer. » C'est très Apollinaire.
Ah ben, complètement. Complètement. Mais en plus, je parlais de ce livre. Enfin, on en parlera
on
peut-être
va,
tout
on
à
on
l'heure.
On va en parler.
Citerai. J'ai été mis face à face donc, à Isabelle Lacan, qui, elle, avait écrit un livre sur Desnos. Et en effet, il y avait des similitudes extrêmement fortes entre les deux personnages. Et comme vous disiez tout à l'heure, peut-être qu'ils se sont croisés, en tout cas, au moins en lecture, quoi. Et c'est vrai que je ne connaissais pas plus que ça Desnos.
C'est bien les stupéfiants et l'alcool. On peut se cultiver quand on vient sur Radio Libertaire,
voilà,
monsieur.
Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je vous en prie.
D'accord. C'est quoi le pari de Robert Desnos, alors? Parce que là, c'est très drôle, parce que vous avez commencé par la rue de Rivoli tout à l'heure, qui n'est pas spécialement le pari de Robert Desnos.
Non.
Hein.
Le pari de Robert Desnos, c'est quartier, c'est les Halles surtout.
Voilà.
Son père était mandataire aux Halles, il est né, je crois, à Boulevard Richard Lenoir. C'est marrant parce que moi j'adore le boulevard Richard Noir. Tout le monde me dit pourquoi t'aimes ce boulevard. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai vu que Death Note, il n'y a pas longtemps que j'ai réalisé qu'il était né là. C'est complètement par hasard.
C'est très cruel ce que vous racontez. Donc, entre guillemets, tout à l'heure, ouais. On a parlé hors antenne. Je vais être très grossier pour une fois. Ça m'arrive de temps en temps aussi. Cette enflure de Louis-Ferdinand Céline. Mm-hmm. Death Note avait fait un article contre Céline. Mm-hmm. Et Céline a exigé dans la presse, a demandé dans la presse que soit reproduit de profil le portrait de Robert Death Note, qui avait un nez crochu d'ailleurs. Le faire à l'époque, il faut dater ça, les années noires, humour noir, c'est quand même dire humour noir, puisque Death Note a été résistant, son QG de résistance se citait boulevard Richard Lenoir. Donc il y a une cohérence. Et le pari de Robert Death Note, c'est Léal.
C'est Léal.
Saint-Méry.
Rue Saint-Méry, rue Saint-Martin. Je n'aime plus la rue Saint-Martin. Enfin, il en a fait.
Aragon, dans Les Poètes, a écrit un très beau vers. Aragon a fait des choses pas possibles, mais il dit qu'il y a des choses qui sont très lucides. Il dit le rire des bouchers t'escortait dans les halles.
Ça, c'est un poème magnifique.
Magnifique, c'est Robert, Robert le Diable. Robert le Diable, le rire des bouchers t'escortait dans les halles. Ce qu'on va faire, Monique, on va écouter un peu Chantal. Je sais que vous ne pouvez pas passer deux titres là. On va faire pour le mieux. C'est très très court, ça doit être 36 secondes, Monique.
Je n'aime plus la rue Saint-Martin depuis qu'André Platard l'a quittée. Je n'aime plus la rue Saint-Martin, je n'aime rien, pas même le vin. Je n'aime plus la rue Saint-Martin depuis qu'André Platard l'a quittée. C'est mon ami, c'est mon copain, nous partagions la chambre et le pain. Je n'aime plus la rue Saint-Martin, c'est mon ami, c'est mon copain. Il a disparu un matin, ils l'ont emmené, on ne sait plus rien. On ne l'a plus revu dans la rue Saint-Martin. Pas la peine d'implorer les saints, Saint-Méry, Jacques, Gervais et Martin. Pas même Valéria qui se cache sur la colline. Le temps passe, on ne sait rien. André Platard a quitté la rue Saint-Martin.
Mais à culpa, Monique, j'ai fait une erreur de programmation, là, au 01 43 111 89 40 sur Radio Libertaire. Ça dénote un petit peu par rapport à l'ensemble du disque, non?
Parce que, en fait, celui-là, en fait, on avait fait donc, un disque en 2006, La Belle Saison est proche, où il y avait pas mal de chanteurs lyriques. Lionel Peintre, qui en est un. Et la seule chanteuse qui n'était pas lyrique, c'était moi. Et dans le dernier disque, c'est l'inverse. Et quand EPM a décidé de faire une espèce de compilation entre les deux, c'est eux qui ont choisi et ils ont mis ce morceau à la fin, qui est un morceau lyrique, mais qui est très très beau. Puis Lionel Peintre est un très grand chanteur.
C'est une musique de Francis Poulenc. On n'est pas dans le reste du disque. Hein, on est dans l'emphase là,
C'est un très beau morceau, quoi. C'est Poulenc. Et effectivement, comme le dernier poème aussi a été mis en musique par Poulenc.
Poulenc qui a mis pas mal de musique, qui a mis pas mal de poèmes d'Apollinaire.
Oui, l'émission est très cohérente sur Radio Libertaire.
J'ai compris ça.
Erreurs par rapport à Monique, fonctionne généralement.
Pas du tout, c'est vraiment.
Tout à l'heure, j'ai commencé par la rue des Envierges, tout à l'heure, Parce qu'on trouve ça dans votre livre, là, Paris d'Apollinaire, que j'ai préféré, quand vous voulez mon avis à chaque fois, j'ai préféré à Pau.
Ouais, d'accord. Ouais, il est plus biographique par définition.
Et je vais vous dire aussi, je connais 2-3 personnes qui vous ont lu grâce à moi, ils vous ont lu grâce à moi, et ça a été pareil.
D'accord.
Ça a été pareil, nous arrêtons là. Vous développez à un moment donné ce thème, on a parlé de la rue des Envierges, de Ménil Montand, Ménil Muche, sans faire du populisme à 3 balles, le thème du mauvais garçon. Là-dedans, aussi bien chez Robert Death Note, qui vient du ventre des bouchers, on n'est pas du tout dans l'intellectuel. Et Apollinaire recherche le mythe du mauvais garçon.
Ah très clairement, mais par contre, il le recherche pas du côté de Ménil Montand. Ses quartiers de prédilection, c'est plutôt à l'époque en tout cas, c'est Saint-Lazare, les abords de Saint-Lazare, parce que c'est là où il va habiter.
Qui sont les mauvais garçons à l'époque
Qui sont les mauvais garçons? C'était un quartier extrêmement mal fréquenté, Saint-Lazare. Et donc, en l'occurrence, c'est là qu'il va rencontrer Picasso, c'est là qu'il va rencontrer Mac Jacob aussi. Et puis aussi, ce fameux Jerry Pierret, qui est une sorte de garçon extrêmement louche, qui va le mener en prison pour quelques jours.
Dans le, puisque vous avez une très bonne mémoire et vous connaissez le sujet bien mieux que moi,
je suis pas sûr.
Si, j'en suis persuadé. Un soir de demi-brune à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour. Il suit un garçon.
Alors ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais
c'est très intéressant.
C'est vachement intéressant, d'autant plus que tout au long de l'œuvre d'Apollinaire, que ça soit avant sa fameuse frasque avec le vol de la Joconde supposée, avant, pendant et après, en fait, il y a des petits signes dans tous ses poèmes qui montrent bien, qui, comme vous le dites très précisément, qui montrent bien qu'il fréquente une certaine marginalité sur Paris. Et donc, en l'occurrence, on ne peut pas forcément relier les choses par rapport à ce qui lui est arrivé, puisqu'il a passé 5 jours à la maison d'arrêt de la santé, mais en tout cas, il y a une sorte de permanence. Et j'avais rencontré un monsieur qui avait, à l'époque, monsieur Descodin, qui était donc le spécialiste d'Apollinaire, qui m'avait dit, il faudrait que vous fassiez une... J'avais pas le temps, puis j'en avais pas grand-chose à faire, pour être tout à fait honnête, mais il m'avait dit, il faudrait que vous fassiez une thèse sur le mythe de la délinquance et la permanence de la délinquance, de la marginalité chez Apollinaire.
Là, c'est pas le mot délinquance que j'emploie, c'est le mot de la perversité. Ce qui, à l'époque, n'était pas autorisé. C'était quand même des invertis, c'était quand même des contre-nature. Il commence son texte en disant « J'ai suivi un mauvais garçon ».
Oui, c'est vrai. Ah, bon, on va pas parler de la littérature érotique, voire pornographique d'Apollinaire.
Vous l'avez lu, Chantal, les 11 000 verges, les choses comme ça ?
Non.
Il faut lire.
Vous lirez La Liberté.
Faut lire. Et j'en profite, parce que je suis un fan, comme vous l'avez compris, d'Apollinaire.
Oui.
J'en profite pour dire qu'il y a un merveilleux livre qui vient de sortir, qui a été édité aux éditions Gallimard par Pierre Kayserg, enfin qui a été préparé par Pierre Kayserg, qui est aussi un spécialiste d'Apollinaire, et qui se trouve avoir retrouvé et rassemblé, on va dire, toutes les lettres, les réponses de Lou, la fameuse Lou, à Apollinaire. Et là, on se rend compte de ce
que... Ce sont les lettres.
Ces lettres à elle qu'elle renvoie suite à celles que lui envoie Apollinaire.
Qui sont coton, d'ailleurs.
Et je vous le fais pas dire. Et ce qui est vachement intéressant dans cette histoire, c'est que les réponses de Lou, enfin, je vous suggère de les découvrir, parce que c'est pas...
C'est coton aussi.
Ah, c'est plus que
très
coton.
Bien. Vous savez que c'est là, dans les premières lettres, où il lui dit, je t'interdis de te faire menotte.
Voilà, exactement. Oui. Et elle lui répond sur ce sujet-là, je les ai pas en tête toutes. Mais il faut lire absolument ça. Mm-hmm. Donc, les lettres de Lou à Guillaume Apollinaire, et vous parliez de perversion, alors là, on y est. Mmh. On y est. Elle parle de sadomasochisme, un mot couvert, bien évidemment. C'est très beau, en plus. C'est un petit recueil, je vous le conseille.
Voilà. Chantal, les amours de Robert Desnos.
Robert Desnos, il a deux amours.
Allez-y.
Il y a Yvan Georges, d'abord.
Chanteuse
puis, oui, chanteuse, mais qui ne... C'est un amour malheureux, quoi. Yvan Georges ne s'intéresse absolument pas à Desnos.
Elle est plus vieille que lui ou la même? C'est une question que je me suis posée.
Je pense qu'elle est plus vieille, mais j'en suis pas certaine. Là, c'est parce que vous me posez la question, je me la suis jamais posée, mais c'est possible.
Et elle marche à la coco, elle marche à tout ça.
Oui, puis voilà, je pense qu'elle n'est pas du tout branchée sur lui, quoi. Ça, c'est un amour malheureux, mais enfin, il est fou d'elle, et après c'est Yuki. Voilà,
oui. Il va trimballer cet amour très longtemps.
Oui, jusqu'à ce elle va mourir en 29, je crois.
C'est ça.
Hein. Et après, il y a Yuki qui arrive dans sa vie. Yuki Fujita, en fait, qui est la femme de Fujita.
Parce qu'ils se piquent tous les femmes les uns des autres.
Oui, mais là, je crois que c'est carrément Fujita qui lui a laissé galamment Yuki, parce qu'il avait rencontré aussi...
C'était un japonais, c'est normal.
Mais il avait la grande classe, Fujita.
Il lui laisse Yuki, qui va devenir madame...
Oui, enfin, il a jamais épousé...
Il n'a jamais épousé, d'accord.
Non, mais on l'appelle Yuki Desnos quand même, elle ne l'a jamais épousé, je crois pas. Enfin, je ne crois... Non, ils l'ont pas. Ils se sont pas mariés. Et Yuki, c'est vraiment son amour. L'amour jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à la mort. Jusqu'à ce qu'il meure.
Desnos va faire partir du mouvement surréaliste jusqu'en 1932.
Oui.
Et là, il va y avoir une rupture à cause de l'entrée au Parti communiste. C'est-à-dire qu'il ne veut pas s'embrigader. Et il dit maintenant, le surréaliste est entré dans le domaine public, dans le domaine des hérésiarques, des schismatiques et des athées. Et lui, il est très clair à ce niveau-là.
Oui. En fait, c'est un homme libre. Il ne veut absolument pas être dans un parti, quoi que ce soit. Et en fait, j'ai écouté une très belle interview de Ernest Mignon-Ernest.
Très bien.
Et il dit, chose que j'aime beaucoup, alors j'espère que je vais la retrouver sans trop le massacrer ce qu'il disait. Il dit une chose comme quoi Desnos était un individualiste qui se préoccupait beaucoup plus des autres que pas mal de personnes qui étaient soi-disant engagées. Et ça, je trouve ça magnifique parce que je trouve que c'est exactement ça. Et je trouve que c'est voilà. Tesno, c'est quelqu'un, c'est pas, il est individualiste sûr peut-être. Et je crois que Breton disait même qu'il était narcissique. Mmh. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est toujours très préoccupé des autres. Et par exemple, quand il s'engage dans la résistance, c'est beaucoup plus. Au lendemain du Vel'Liv, par exemple. Mmh. Voilà, il s'engage vraiment dans le groupe Agir, le réseau Agir. Après la rave du Vel'Liv, il est très 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 troublé et très préoccupé par le sort des personnes, quoi, des juifs en l'occurrence. Voilà. Et ça, c'est une chose qui ne supporte pas.
Breton lui reproche aussi de faire du journalisme. C'est-à-dire, c'est le gros problème du surréalisme. Est-ce qu'on peut gagner sa vie avec la plume ?
C'était mal vu, le journalisme,
très
à cette époque-là.
Parce que Vaillant en a fait, Destos en a fait.
Ouais, bien sûr.
Bien sûr, il ne fallait pas être journaliste, mais on pouvait vendre des tableaux qui étaient beaucoup plus nobles.
Ou être critique d'art, là.
Critique d'art.
C'est très drôle. Élitiste, on va dire.
C'était très drôle, tout ça, bien sûr. Toutes ces contradictions sont extraordinaires.
Ouais. Ouais. Ça, je pense que Desnos n'avait pas de choses comme ça dans sa tête, quoi. Je veux dire, de dire c'est pas bien de faire ci, de faire ça, c'est déjà se mettre dans des cases. Et Desnos, c'était pas comme ça, je pense. C'était beaucoup plus libre que dire on fait pas de journalisme, on fait pas ci, on fait pas là. Je crois qu'il disait, lui, pour lui, on faisait ce qu'on voulait, quoi. C'est ça qui est important.
Alors que notre Apollinaire, lui, il a une volonté. Il veut être français, il veut être catholique, il va jusqu'à être soldat.
Oui, il est quand même extrêmement...
Il veut être reconnu. Hein.
Oui, il est extrêmement contradictoire, ce garçon, quand même. Hein. Très mondain, il ne faut quand même pas l'oublier, qui sait s'entourer des bons amis au moment où il le faut, et puis, en même temps, qui sait aussi, en effet, on le disait tout à l'heure, qui sait jouer avec la marge, quoi, et qui est sur ces deux tableaux-là. Et en effet, il est russe, hein, donc, d'origine, il obtiendra sa naturalisation pendant la guerre. Il ne veut pas être juif. D'ailleurs, il y a un jeu qui tourne sur Paris à cette époque-là, où il s'agit de, dans les milieux intellectuels, entre guillemets, pour lequel il s'agit de reconnaître un juif, justement, à son faciès. Vous parliez de ça tout à l'heure, à propos du profil de... Voilà.
Et donc, parenthèse, on sort de l'affaire Dreyfus, hein, faut bien remettre ça. Hein.
Il y a eu toute la vague anarchiste, d'attentats anarchistes aussi, et Apollinaire se réclame aussi de ça, de manière beaucoup plus subtile, parce qu'encore une fois, il veut avoir aussi sa bonne image de mondain et de parisien lettré, mais ça joue sur tous ces tableaux-là, quoi. Et pour en revenir à sa naturalisation, et donc, en effet, alors, il y a aussi une petite rivalité, on peut en parler, mais on n'arrêterait pas. Mmh. Cette rivalité avec Sandra.
On la verra plus tard. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que Apollinaire vient du 19e.
Ouais.
Il vient d'un monde, du monde de Jarry, par exemple.
Eh bien, avec qui, bien sûr, extrêmement
qui avait une violence par rapport au corps, etc.
Ouais, et qui tirait au pistolet dans la rue, et qui menaçait, qui blessait, oui, non.
Et ça, c'est le paradoxe d'Apollinaire qui veut être un littéraire, qui veut être un littéraire, un mondain, mais qui en même temps va vers la partouze, va vers le coup de revolver, etc.
Ouais. Oui, pour en revenir, on parlait de Louise tout à l'heure, enfin, Louise Lou Coligny, donc une de ses dernières maîtresses, c'est aussi elle qui l'a initiée à l'opium. Par exemple, on parlait aussi des produits stupéfiants, c'est elle qui l'a initié à l'opium. Bon, on peut imaginer qu'il y a eu d'autres choses avant, mais en tout cas, il était toujours dans ces deux aspects-là, quoi. Mais il était quand il est sorti de prison, il faut le savoir aussi, c'est que Marie Laurencin l'a quitté en lui disant, moi je veux pas vivre avec un voyou.
C'est pour ça que j'ai commencé l'émission comme ça. Le terme du voyou est une chose qui lui colle à la peau. Il écrit lui-même, mais quelque part, il a cette mélancolie du voyou.
Il a commencé tout jeune, hein, je dirais, sa carrière de délinquant, hein, puisque sa mère l'initie très très jeune, puisque sa mère est une femme, et on va dire, je crois que je l'avais déjà dit à propos d'Apo, de pas de mauvaise vie,
c'est une demi-mondaine qui se faisait passer pour une comtesse, c'est ça qui n'avait rien de noble d'ailleurs.
Qui changeait de prénom à l'occasion.
C'est quoi le milieu de Desnos?
Simple, très simple.
Simple, hein, de petits commerçants,
oui,
c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est pas du tout un bourgeois, ni c'est pas non plus quelqu'un de très pauvre, je ne pense pas, mais c'est pas du tout la bourgeoisie, c'est pas du tout un milieu intellectuel.
Et qui s'initie à la littérature très rapidement,
oui,
c'est-à-dire
tout seul. Tout seul, Nerval, Hugo.
C'est ça.
Tout mais Apollinaire aussi, je crois avoir vu passer.
Ah bah Apollinaire est incontournable à l'époque, hein.
Apollinaire, oui.
Mais en tout cas, pour revenir à ce garçon, cette dame, et cette dame particulièrement, elle l'initie donc très rapidement à la voyoucratie, puisqu'elle lui fait déménager à la cloche de bois d'un hôtel en Belgique. On les soupçonne avec lui et son frère, qui est un peu plus jeune que lui.
Qu'est-ce qui devient le frère?
Il disparaît.
Il y a deux, trois questions à vous poser. Ouais. Qu'est-ce que devient le frère?
Il disparaît 2 ans après, il meurt à New York. On ne sait pas dans quelles conditions. Mais...
Et deuxième question, on poursuit. Ouais. Notre discussion, on va écouter Chantal 1 et 2 après Monique. Petite question que je me suis posée en vous lisant. Jacqueline, qu'est-ce qu'elle devient? Parce qu'elle va être veuve, elle est jeune, elle est veuve très tôt.
Alors, elle est veuve très tôt, mais ça c'est une bonne question parce que j'ai pas forcément la réponse.
Personne ne l'a, moi j'ai pas trouvé.
Parce que hormis le fait de savoir qu'elle est enterrée sous la même tombe que Monsieur Guillaume Apollinaire, on ne sait pas. Elle était vaguement, c'est d'ailleurs comme ça qu'il l'a rencontrée. Il l'a rencontrée dans un salon d'art, dans une exposition. Elle était vaguement peintre, mais alors quand je dis vaguement, je pense qu'il faut, je suis gentil encore. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait pas forcément un talent fou. Mais je pense que, alors moi j'ai rencontré lorsque j'ai fait mon premier
c'est
bouquin sur
Jacqueline. Jacqueline, vous avez rencontré Jacqueline?
Non, mais j'ai rencontré une des dernières personnes, monsieur Marcel Adema, qui était un des biographes d'Apollinaire, qui l'a rencontré donc.
Mais quelle année?
Quand je l'ai rencontré?
Vous êtes éliminé. En quelle année il l'aurait rencontré, lui?
C'est dans les années 40, je crois.
À l'année 40, d'accord.
Donc, c'est assez une vraie question, parce que j'ai pas la réponse.
Mais le seul amour heureux qu'il a eu, c'est avec elle?
C'est le seul amour tranquille qu'il a eu. D'accord. Heureux, je sais pas. Mais en tout cas, elle lui a assuré la tranquillité d'esprit. Puis il se sentait déjà affaibli quand il la rencontre. Il sait déjà peut-être...
Ça va très mal, sa vie aussi.
C'est le moins qu'on puisse dire.
On va écouter Chantal quand même. Le 1 et le 2, Monique. Avec un petit blond au milieu, mais il n'y a pas de problème.
Que j'aime à faire des zigzags. Quand je roule avec toi en tandem, on croit être emporté par la vague. Au soleil on était en tandem.
Ah, que j'aime faire des zigzags. Quand je roule avec toi en tandem, on croit être emporté par la vague. Au soleil en été en tandem. Ah, que j'aime faire des zigzags. Quand je roule avec toi en tandem, on croit être emporté par la vague.
Au soleil
en été en tandem.
Couchons-nous sur le pavé, par le soleil chauffé, par le soleil lavé. Dans la bonne odeur de poussière de la journée achevée, avant la nuit levée, avant la première lumière. Et nous guetterons dans le ruisseau les reflets des nuages en assaut, le coup de sang de l'horizon et la première étoile au-dessus des maisons. Couchons-nous sur le pavé.
Couchons-nous sur le pavé.
Couchons-nous sur le pavé.
Couchons-nous sur le pavé.
Couchons-nous.
Couchons-nous.
Et il n'y a pas eu beaucoup de blancs, au 01 43 71 89 40. Comment vous expliquez tous les deux que des gens qui ont des poésies parfois aussi savantes, Apollinaire aussi structuré, et puis Robert Destos, aient besoin de faire ces comptines aussi bien Apollinaire avec son bestiaire d'Orphée, avec ses 4 dromadaires, Dom Pedro, d'Alfaro, Béra, Couru le monde et l'Admira, c'est enfantin. Puis Robert Destos qui est revenu à des comptines et des comptines. Comment vous expliquez ça?
Je sais pas, je crois que Desnos, il aimait ça. Enfin, je veux dire, par exemple, il y a les chants de fables et les chants de fleurs qui sont des petites. Les chants de fables, c'est 30 poèmes sur les animaux. Les chants de fleurs, il y a une cinquantaine sur les fleurs. Bon, les chants de fleurs, c'est pas trop pour les enfants quand même. Les chants de fables, c'est a priori des petites comptines d'enfants. Je sais pas, je crois que. Je ne vais pas vous dire pourquoi il aimait ça, hein, parce que j'ai l'impression qu'il aimait un peu tout. Donc ça en fait partie. Je sais qu'il a fait aussi des comptines quand même. Très spécialement pour les enfants de Paul de Rame, je me souviens jamais son nom, celui qui l'a initié à la radio, je ne me rappelle pas, Paul de Rame, je crois. Mm-hmm. Et il a fait des chansons pour ses enfants parce que c'est donc il a initié à la radio. Et en remerciement, il a fait la ménagerie de Tristan, où il y a le chat qui ne ressemble à rien, le poisson sans souci, l'araignée à moustache.
Ça vous touche, ça?
Ah, j'adore, moi. D'accord. C'est, au début, j'ai commencé par chanter ça.
Je vais vous dire un secret entre vous et moi. Moi, c'est ce qui me fait refuser un peu Robert Desnos, duquel je suis absolument fou. Voyez-vous?
Ah bon?
Je trouve que c'est vraiment dommage qu'il ait fait ça, parce que je pense qu'il avait un ton à s'en aller ailleurs, et c'est dommage. Ah voilà, donc, entre vous et moi,
Hein. Mais bon, il a fait plein de choses différentes, ça, voilà. Ça en fait partie.
Vous, est-ce que vous pensez que... Allez-y.
Je voudrais vous citer un poème qui est dans le Paris d'Apollinaire, qu'il a écrit justement sous le pseudo de Louise Lalanne, qui rejoint un petit peu ce qu'on est en train de dire là. On s'aperçoit qu'en fait, on n'est pas du tout dans le Apollinaire que l'on connaît, structuré, etc. Et les myrtilles sont pour la dame qui n'est pas là. La marjolaine est pour mon âme, tralala. Le chèvrefeuille est pour la belle, irrésolue. Quand cueillerons-nous les érelles lenturlues? Mais laissons pousser sur la tombe, au folle, au fou, le romarin en touffe sombre, l'aïtou. On n'est quand même pas dans l'Apollinaire tel qu'on peut le connaître habituellement. Et là, on est vraiment dans la caricature presque de lui-même.
Est-ce qu'il y a une perte pour vous? Est-ce qu'il aurait dû... Moi, c'est très sincèrement, puisqu'on est ensemble aujourd'hui, est-ce qu'il aurait dû faire ça?
C'est vrai que ça nuit à son image.
On s'arrête là. Je vais vous lire simplement à vous aussi. Ouais. Vous allez vous lire un tout petit passage et après, promis, on tombe dans le Paris d'Apollinaire. Hein. Au niveau de la morale, vous allez me dire ce que vous en pensez,
oui,
chère madame.
D'accord.
Je sais que vous avez une conscience féministe et Monique aussi, très poussée. Alors, Monique, elle est partie. Vous allez voir. Oh, les beaux et raides priapes que sont ces canons. Si les femmes avaient dû faire le service militaire, elles auraient servi dans l'artillerie. La vue des canons doit être étrange pendant la bataille. C'est terrifiant, non?
Vous
connaissiez ou pas? Vous connaissiez? Non, d'accord.
Mais moi, j'aime bien.
Vous savez une chose? Ah, j'aime pas. Je pense qu'on ne moralise pas la poésie. Ça sert strictement rien.
Oui, mais par exemple, pour en revenir, je suis désolé.
Ça vous choque ou pas, ça, l'image des canons et des femmes? Ça passerait plus maintenant. Hein.
Non,
ça ferait scandale. Ça ferait scandale.
Mais c'est pour ça que j'aime bien.
Il y a des choses dans le scandale et aujourd'hui, c'est un peu terrible qu'elle fasse un scandale, je trouve.
Contrairement aux comptines qui m'ennuient énormément, ça, je trouve ça absolument superbe.
Mais ça vous ennuie vraiment les comptines?
Oui, ça m'ennuie. Parce que je vous dis, quand je cite, dire, quand je cite l'Apollinaire de le phare des Argonautes en 19, la liberté est magnifique avec Louise Lame, c'est absolument magnifique. Je trouve, car c'est très clair, qu'il a une volonté de tomber coûte que coûte dans le domaine public et d'être reconnu.
Je crois pas.
Ah mais on sera pas d'accord. Allez-y Chantal.
Non mais je crois pas, parce qu'en plus sur les chants de fables il y a tout un travail qui a été fait par j'ai un peu du mal avec les noms, excusez-moi là, mais par Yves, il s'appelle son prénom, et c'est un travail où il y aurait sûrement un double sens par rapport à ce qui se dit dans ces chants de fables sur la fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête par exemple. La fourmi de 18 mètres avec un chapeau, ça n'existe pas.
Il y a un double sens.
Un double sens par rapport. Il a écrit ça juste avant d'être déporté.
Oui.
Et en fait, il y aura un double sens par rapport à cette fourmi de 18 mètres qui correspond exactement au train. Et de déporté.
D'accord,
il y a plein de choses comme ça. Et puis, presque toutes les chants de fable, il y a un double sens. Alors, c'est un travail. Je ne sais pas si c'est prouvé, mais il y a de grandes chances qu'il y ait vraiment ce double sens. Et connaissant Desnos, c'est fort.
Très bien, Chantal. Oui, ça, c'est génial. Très, très bien. Non, mais ce que je veux dire, par rapport à Apollinaire, c'est qu'il a vous qui ne connaissez pas Robert Desnos aussi peu, j'ai l'impression
moyen.
qu'il a suivi un chemin inverse d'Apollinaire, c'est-à-dire Apollinaire commence par le classique, c'est très classique, il s'en va vers ces textes détruits.
Mais un peu par obligation, je dirais presque. Vas-y. Par obligation, par sens de la mode, parce qu'il se rend bien compte que Sandrard est en train d'arriver, les petits jeunes arrivent, comme je disais tout à l'heure, Gide, Aragon, etc. Et que donc, il est nécessaire peut-être de quitter le classicisme absolu de ses premières poésies pour arriver à quelque chose de beaucoup plus à la fois déconstruit et construit. Bon, Zone, par exemple, etc. Il faut se rappeler qu'il y a eu Pâques à New York qui vient de sortir aussi, et donc ça sort quasiment simultanément avec Zone. C'est deux poèmes absolument sublimes, l'un de Sandrard, l'un d'Apollinaire, et je pense que Apollinaire a su prendre, on parlait de fumée à l'instant de train, a su prendre le train en marche de ce point de vue-là.
Et Desnos, lui, fait l'inverse. Il vient quasiment de l'alexandrin, après il passe par le langage cuivre, vous savez, toute la destruction du langage, et après pour revenir des comptines enfantines. Oui, mais donc il a un besoin d'être, il a un besoin de rentrer dans le langage, comme l'a eu aussi Aragon, hein,
Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est intéressant, enfin, toute cette période-là, mais je dirais depuis le tout début des années 1900 jusqu'à la guerre, la Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a une explosion en termes poétiques, purement poétiques, hein, pas seulement, bien sûr, en littérature de manière générale, mais en poésie, c'est vrai qu'on casse tous les codes, quoi. La fin de la ponctuation, vous le savez, je vous apprends rien, mais la fin de la ponctuation, c'est Apollinaire et c'est Sombrard. Hein. Avant, il fallait mettre des virgules, des machins, des ceci, des cela. Là, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus moderne, quoi, vraiment. Mais c'est pour ça que, pour moi, Apollinaire est fascinant, parce que vous parliez des choses, des comptines que vous n'appréciez pas. Moi, je suis pas forcément un fan du pont Mirabeau, par exemple. C'est bien fait, hein, c'est bien foutu.
Il arrive à n'importe quoi. Ça appartient au 19e.
Hein. Ben voilà, on est quand même dans quelque chose de très classique. Je ne crache pas dessus, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut. Je pense heureusement qu'il a su évoluer dans son écriture.
Je voudrais juste vous lire, si vous voulez bien, une petite comptine. C'est le zèbre.
Ah, le zèbre, allez-y.
Le zèbre, cheval des ténèbres, lève le pied, ferme les yeux et fait résonner ses vertèbres en hennissant d'un air joyeux. Au clair soleil de Barbarie, il sort alors de l'écurie et va brouter dans la prairie des herbes de sorcellerie. Mais la prison, sur son pelage, a laissé l'ombre du grillage. Moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup.
Oui, non.
Et je veux dire, c'est des coups. Dernier vers, c'est une conclusion du reste, quoi. Ouais. Et moi, je trouve ça magnifique parce que je trouve qu'avec des comptines souvent. Mais c'est marrant parce qu'on m'a fait ce reproche avec d'autres poètes que moi j'ai chanté parce que moi j'aime beaucoup la poésie d'enfant parce que souvent, je trouve que derrière, il y a des choses très très fortes. Après, on est touché par ça ou pas, mais. Je sais que par exemple, même Maurice Carême, qui est considéré comme vraiment le poète bébé, machin, c'est pas vrai du tout. Ouais. Il y a des textes qui sont absolument. Même Le Chat et le Soleil, c'est d'une beauté. Mmh. Enfin, je veux dire. Voilà. Et je trouve que dans ces poésies très courtes, comme ça, c'est comme juste des petites pièces, ça serait presque des trucs de philosophie pour moi. Vous voyez, le Musotis aussi, quoi. Ayant perdu toute mémoire, un Musotis ennuyé, à la fin, ça venait pas de passé, pas d'avenir. Musotis sans souvenir. Je veux dire, c'est pas rien. Enfin, moi, ça me raconte beaucoup de choses, ça.
Comme il y a de la littérature jeunesse, il y a de la poésie jeunesse,
oui,
peut-être.
Exactement. Voilà. Mais c'est pas vraiment. Enfin, moi, la poésie et la littérature jeunesse, c'est des choses magnifiques.
Il n'est pas d'accord.
Non, il n'est peut-être pas d'accord.
Non, mais je comprends.
Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. C'est pas pour vous convaincre.
Je suis très amoureux de Louise Lamb.
Oui, ça, je comprends.
Voilà, c'est comme ça, je suis un buté. Non, mais pour revenir au phénomène, après, on va écouter. Quelque chose, Chantal chantait, c'est qu'à de le dire. On va revenir au Paris d'Apollinaire, là. Lorsqu'Aragon, je ne sais pas si vous avez lu, c'est ses premiers textes de jeunesse, Le Comte d'Irène, Le Traité du Style, Le Paysan de Paris, qui sont absolument superbes. En 40, pour justifier, on vient à la virgule, on vient à tout ça, la rime, pour justifier la rime, nous fait, alors là, aux parfaites antipodes de ce qu'il a produit, et il nous fait des textes patriotiques, avec des bouts rimés, etc. Ouais, c'est-à-dire que tout ça est à géométrie variable.
Ouais,
hein.
Il a mal vieilli, on va dire, peut-être, enfin, on peut le dire comme ça méchamment, mais en tout cas, il a dérivé, hein. Mais je pense que c'est aussi le fait d'un poète et de toute personne qui écrit, de manière générale, je pense qu'il faut aussi savoir s'écarter de ce à quoi on attend, justement. Le lecteur attend des choses. Moi qui écris par ailleurs, qui ne fais pas seulement des biographies, mais moi, ce qui m'amuse, si je puis m'exprimer ainsi, c'est aussi de surprendre le lecteur et d'aller là où il ne m'attend pas, par rapport au livre précédent.
Aragon vieillit mal, mais en 56, il produit le roman inachevé.
Quand même.
Et c'est pas mal du tout. Monique, j'ai bien marqué sur mon papier. Merci, Monique.
La rivière au nénuphar, sous les ombres douces des grands peupliers, coule entre deux ponts où les cris des canotiers retentissent plus sonores. Grenouille en robe à traîne, dont le nom est Pulchérie, y retrouve Népomucène, l'amant goujon qu'elle a choisi. Son coassement d'amour s'épuise devant l'éperdu silence du poisson, et l'eau de la rivière les grise. Quand quand des buveurs versent leur verre du haut du pont. Le pêcheur à la ligne près du coude, depuis 30 ans n'a pas bougé. On dit qu'il est mort à la tâche et d'oubli. Nul n'est allé le réveiller. Le flotteur rouge de sa ligne est un peu décoloré. C'est une vieille carotte que la lune à minuit, comme un veau, semble brouter. Les étoiles sont gigantesques, la nuit dans le ciel de la ville, et les chansons des buveurs semblent ne pouvoir franchir les remparts. Cette ville n'est pas rassurante du tout. On dit que de la source, une forme sort parfois au crépuscule, comme une jeune fille nue d'un miroir. C'est peut-être bien Ophélie, c'est peut-être bien Pulchérie, c'est peut-être Népomucène, Goujon, Grenouille ou la jolie Offucène, Népomélie, Pulcherouille ou Grenoujon.
Offucène.
Népomélie.
Pulcherouille.
Ou Grenoujon. Au bord de la rivière, au nénuphar qui coule, coule entre deux ponts.
Eh oui, Franck Ballandier rêvait sur une jeune fille de 25 ans, 01, 43, 71, 89, 40, monsieur Ballandier. Les Hommes sans épaules 47 sont sortis, vous y avez participé. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est un numéro spécial Tahiti, ce qui est assez rare. Hein. Il y a eu des poètes sur le chilien, il y a eu des poètes haïtiens, mais Tahiti, c'est beaucoup plus rare.
Oui,
on va y revenir, et puis il y a, c'est très bien, parce que en même temps, c'est politique et poétique en même temps, mais je vais consacrer quelque chose à premier juré dans là. Il y a quand même Edgar Morin qui prend parti pour les Gilets jaunes, en disant qu'il dit effectivement, malgré tout ce qui se passe, il y a quand même des gens qui dressent la tête. Et c'est pas mal Non, c'est nous approuvé.
Tout à fait.
Tout à fait, non, mais non.
Ouais, complètement.
Non,
mais qu'ils le disent aussi dans ce genre de revue aussi.
Oui.
Qui est une revue poétique de.
C'est ce que je vous dis.
Voilà. C'est franchement. Quoi.
Comment s'appelle. La parenthèse, vous en souvenez plus, on ne va pas en parler, parce que on me l'a demandé par rapport à l'émission qu'on a fait la dernière fois. Cet individu, cette créature, ce monstre d'extrême droite qui a écrit sur vous.
Qui a écrit sur moi.
Comment s'appelle-t-il ?
Vous exagérez là quand même. Non, il y a eu un article sur mon impôt qui a été publié dans la revue L'Incorrect.
Comment s'appelle ce garçon ?
Eh bien, j'ai plus le souvenir
très
de ce
bien,
garçon.
Très
il
bien.
Se trouve que c'est un garçon qui a publié.
C'est pour ça que
c'est incroyable.
C'est
incroyable.
Parce qu'on m'a demandé plusieurs fois qui c'était, j'ai pas été foutu de le dire.
Je pourrais vous le redonner, hein, mais c'est vrai que c'est étonnant parce que c'est un poète. Et c'est un poète qui publie dans la même revue.
Oui, c'est pour ça que votre remarque, c'est bien que.
C'est impressionnant.
Edgar Morin parle des gilets jaunes là-dedans, c'est très très bien. Voilà, on n'est pas dans la religion, on est quand même dans quelque chose qui est... Voilà. Voilà. Donc, ce Franck Ballandier, Le Paris d'Apollinaire, édition Alexandrine, c'est très bien, ces genres de livres qu'on peut glisser dans un sac de dames, même lorsqu'on a 25 ans, monsieur Ballandier, donc ça justifie votre tentative éditoriale. Donc, il se promène, cet Apollinaire, il se promène... Dans ce qu'on sait, c'est forcément Montmartre et Montparnasse.
Alors, comme je le disais tout à l'heure en débutant l'émission, d'abord Saint-Lazare, donc ça c'est son premier lieu de perdition.
Saint-Lazare, c'est un lieu de perdition à l'époque. C'est 1900...
Ah ben ça c'est le tout début, c'est 1905. C'est là qu'il rencontre Picasso, comme je le disais tout à l'heure. Alors ce qui est assez amusant, c'est que donc il fréquente un café qui existe encore aujourd'hui, qui est devenu un hôtel qui s'appelle L'Austin's, avec un S apostrophe, qui est donc fréquenté par tous les loubards, tous les voyous de la région. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est devenu un hôtel... qui est un hôtel 3 étoiles à 150€ la chambre, ce qui veut dire que les choses changent aussi et que donc en effet le quartier Saint-Lazare maintenant est devenu un quartier entre guillemets huppé, en tout cas qui a beaucoup de...
Vous savez que l'hôtel des grands hommes, place du Panthéon, où descendaient Breton, etc., dont il parle dans l'Alja, qui était un hôtel à trois ronds, maintenant c'est tenu, c'est des touristes russes qui viennent, voilà.
Alors, donc ça c'est le premier lieu de perdition. Deuxième lieu de perdition, il rencontre donc en 1905 Picasso, enfin on met à peu près à cette date-là leur rencontre. Il va suivre Picasso au bateau Lavoir. En tout cas, il va émigrer vers ce nouveau lieu de perdition qui est le bateau Lavoir, où on trouve de tout. On respire aussi l'air pur à l'époque, parce qu'évidemment, c'est en hauteur et c'est pas les embarras.
C'est la campagne, Montmartre.
C'est complètement la campagne, quoi. Et il va y rester un certain temps jusqu'à... Il y a une ligne de métro qui se crée entre le bas de la butte Montmartre, enfin donc en vert dans ces eaux-là, et qui va relier Montparnasse, et donc là, migration intellectuelle, migration poétique, migration culturelle.
Qui est la ligne, maintenant, c'est la ligne... ça existe toujours.
Ça existe toujours, bien sûr.
Non, mais ce qu'il faut dire, Franck, c'est quand même, il y a le métro qui est là.
Voilà.
On est dans le 20e. Hein.
Bien sûr, et donc ce métro-là, la création de cette ligne-là va permettre donc aux gens d'émigrer, enfin quand je dis aux gens, c'est à tous les lettrés de l'époque, d'émigrer vers un nouveau quartier qui est Montparnasse, donc la coupole, le dôme, le balbulier, la causerie des Lilas, et puis par la suite, donc, vers la fin de sa vie, pour Apollinaire, en l'occurrence, donc Saint-Germain-des-Prés, mais on est toujours dans le même périmètre.
Et on retrouve des snows dans les années beaucoup plus tard, dans les années 30, dans les mêmes endroits. On le retrouve à Montparnasse sans aucun problème.
Oui, puis la causerie des Lilas, justement, continue à être fréquentée, même après la Seconde Guerre mondiale, continue à être fréquentée par les grands écrivains, Henri Miller, etc.
Vous y avez été, la causerie des Lilas, non ?
J'y suis allé une fois pour faire une interview.
Alors, vous y allez, vous avez des tables et vous avez des petites plaques de cuivre.
C'est ça,
avec les noms qui sont marqués.
Gens, j'ai pas encore le mien, mais je suis un peu.
Ah, moi je l'ai le mien, je vous rassure. Je l'ai. Mais si, vous savez très très bien. Donc voilà, ça on le sait, c'est le phénomène artistique, c'est Montmartre, Montparnasse, on le sait. Après, on passe par le quartier chic. Auteuil, non
alors, ça, Auteuil, alors oui, alors Auteuil, ça c'est la rencontre avec Marie-Laurencin, c'est un peu plus tard en effet, et en fait il va suivre Marie-Laurencin parce qu'elle déménage avec sa mère donc à Auteuil qui est aujourd'hui en fait Paris, hein, c'est vraiment, à l'époque c'est la banlieue, enfin je dis banlieue exprès parce qu'on m'a repris souvent, moi je dis banlieue, je dis pas périphérie ou...
Non, c'est vraiment la banlieue,
au sens strict du terme, et donc il va suivre pendant un certain temps donc Marie-Laurencin, il va s'installer donc à Auteuil, rue Gros. C'est là où il va subir la fameuse crue de 1910, puisque Paris magnifique. Est envahi par les flots. J'espère que ces images, ces pages-là ont été intéressantes, parce que je me suis beaucoup amusé à les faire, et beaucoup, je me suis beaucoup renseigné aussi pour justement rendre l'atmosphère de ces moments-là, où Paris est réellement sous les eaux, où les gens se trimballent en barque sur les grands boulevards, il faut imaginer.
Quoi, vous qui habitez dans ce Paris, le même que le mien, ce Paris-Est, là, est-ce que vous situez la rue de Meaux?
La rue de Meaux, oui, tout à fait.
En bas des buts de Chaumont.
Oui, la rue de Meaux, c'est au marché Secrétan.
Donc les buts sont en hauteur, et on voit des gens, puisque on est près du canal, on voit des gens dans la rue de Meaux qui sont en train de...
Et on se fait photographier, et Apollinaire se fait photographier, j'ai pas retrouvé la photo, mais il se fait photographier en barque, c'est très à la mode, on en voit cette photo-là de Paris, qui est un Paris absolument extraordinaire, quoi. Mais, donc, les beaux quartiers pour lui, qui ne sont pas des beaux quartiers à l'époque, je précise encore, Auteuil n'est pas, ou Passy, n'est pas forcément ce qu'on a connu aujourd'hui, ça n'est que transitoire, parce que, encore une fois, son histoire avec Marie Laurencin va pas forcément durer très longtemps, mais il a été assez dégueulasse avec elle.
Hein, alors oui, le rapport est un peu... Mais ça, c'est juste avant son petit séjour par le 13e, j'ai envie de dire. C'est ça, non ? J'ai bien compris.
La rue de la Santé.
La rue de la Santé. Petite parenthèse, vous avez écrit votre impôt au Castor Astral, c'est ça, là. Vous avez fait des lectures en prison de votre livre ou pas ?
Bien sûr.
D'accord.
Vous
avez fait des lectures de votre livre ou d'Apollinaire ?
J'ai fait les deux. Il se trouve, je sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, ça, mais il se trouve que je suis un ancien de l'administration pénitentiaire.
Nous savons tout de vous sur Radio Liberté. 89.4.
J'étais éducateur et donc maintenant que je suis à la retraite, je continue donc à intervenir en prison régulièrement. D'accord. Je l'ai fait pour le Paris d'Apollinaire, je l'ai fait pour Apo.
Alors qu'est-ce que vous avez lu et à qui, vite fait ?
Ah bah, très clairement, le public qu'on peut avoir en prison est un public quand même très particulier. Je suis allé à la Santé justement dernièrement, là, c'était génial. Pardon, je fais un petit aparté, mais il se trouve que je suis revenu sur les lieux du crime, si j'ose dire, d'Apollinaire. Maintenant, la prison est entièrement reconstruite, etc. Et donc, c'était vraiment très émouvant pour moi et pour les détenus aussi, parce que du coup, je leur parlais d'un lieu dans lequel ils étaient, quoi. Donc, j'ai parlé de mes deux livres, mais j'ai également, alors pour le coup, les poèmes qu'on peut lire en prison ne sont pas des poèmes très compliqués. Il y a eu Zone, mais des extraits.
Vous avez réussi à lire Zone, très bien.
Quelques extraits. Et puis, le pont Mirabeau, parce que justement, j'aime bien les mettre en parallèle tous les deux, ce qu'on disait tout à l'heure, d'un côté, le classicisme absolu, de l'autre côté, la modernité.
Et comment ça réagisse par rapport à Zone ? Ce sont des extraits ou une intégralité de Zone ?
D'accord.
Parce qu'il y a des passages qui sont...
Non, puis ça ne dure pas très longtemps, ces interventions-là. Mais c'est vraiment génial.
Je crois que ça, à la fin, tu es là de ce monde ancien.
C'est ça.
Ça doit passer. Ouais. Mais la structure bergère autour Eiffel, c'est plus difficile.
Oui, dont je parle.
Mais c'est plus difficile à prendre, non ?
C'est plus difficile. Mais alors moi, ce que j'ai pris comme extrait, justement, puisqu'il parle aussi de son incarcération dans Zone, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais il y a plusieurs vers qui font allusion à son incarcération. Et donc, du coup, c'est intéressant, justement, de les extraire un peu, de dire, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en penser par rapport à ça ? C'est quoi cette histoire dont on l'a accusé ? Est-ce qu'il a vraiment volé la Joconde ? Je vous en avais parlé pour
le coup. Alors, il l'a volé ou pas ? Dites à Chantal tout.
Moi, je suis pas convaincu à 100% qu'il soit innocent. Je suis pas convaincu, mais cela dit...
Vous êtes au courant de l'histoire ?
Pas du tout.
Mais écoutez, on en profite.
Ah oui, je veux bien la Joconde.
Alors, est-ce qu'il a... Apollinaire a-t-il volé là ? Vite fait, on a plein de choses à se dire.
En août 1911, la Joconde est volée au musée du Louvre. Mm-hmm. Dans la foulée, il y a un certain nombre de petits objets qui disparaissent, des statuettes, dont Géry Pierret, le fameux secrétaire occasionnel d'Apollinaire, se vante de les avoir volés. Il raconte même comment il faut faire pour rentrer dans le Louvre sans se faire piquer, etc. Et donc, on remonte jusqu'à Apollinaire, et comme il y a une coïncidence, en tout cas de date, quasiment, entre le vol de la Joconde et ses vols de statuettes, on va l'incarcérer pour à la fois le vol des deux statuettes et aussi pour une présomption, donc un soupçon d'avoir volé cette Joconde, quoi. Et donc il va y rester seulement 5 jours parce qu'en effet il y a une levée de boucliers, il y a des pétitions qui circulent pour... Et puis il y a aussi une erreur de procédure terrible que j'ai retrouvée. Le mandat de dépôt est signé de 1910 alors que ça s'est passé en 1911. Voilà. Et donc les avocats vont jouer là-dessus, à mon avis, hein, parce que j'ai pas...
Il est incarcéré combien de jours ?
5 jours.
D'accord.
Que dalle.
Vous vous souvenez de la phrase... Il y a là-dessus, vite fait, si on voudrait... De la phrase du voyou de Ménilmontant là qui dit
Dédé de Ménilmontant pour meurtre.
Apollinaire trouve c'est ça sur le mur, c'est sur le mur.
Sur le fer du
sur le fer
du lit. Dédé de Ménilmontant pour meurtre. Et il trouve aussi un autre poème qui est signé de Myriès le chanteur. On ne saura jamais qui est ce Myriès le chanteur, ça c'est historique, hein. Et donc il trouve ce poème suffisamment intéressant et pas si mal foutu que ça, pour le recopier sur une page d'écolier et pour pouvoir le sortir. Et on le retrouve, il est maintenant donc aux archives de...
Quand il sort Apollinaire de prison, c'est une véritable vedette.
C'est une vedette. Et
pourtant, il n'a pas écrit grand-chose.
On a même pensé que peut-être il avait joué le coup pour peut-être...
C'est ce qu'on a dit.
Pour obtenir le Goncourt.
Il n'a pas écrit grand-chose.
Bah non, il a écrit, à cette époque-là, il écrit Les Résiarques et compagnie, qui n'a pas un grand succès, c'est pas son œuvre majeure, on va dire, quoi. Mais en tout cas, je pense que ça lui a fait du bien, ouais, à sa carrière. Je suis méchant, là, mais ça lui a fait du bien.
Vous voyez, Chantal, quand on lit Desnos, Robert Desnos, on a l'impression d'une grande bouffée de bonheur. Il parlait même lui-même du bonheur. C'est-à-dire qu'on est, c'est quelqu'un qui aspire au bonheur et la vie va lui faire finir.
La vie, façon, voilà. Ça va être terrible pour lui, oui.
Fin de Desnos, c'est...
C'est affreux, oui.
Allez-y, vite, tout le monde ne le sait pas.
Il est mort dans le camp de Térésine. Enfin, il a été arrêté, déjà. Il a été arrêté en 40,
Il a arrêté en 44.
44. Hein. Et bon, on l'emmène à Compiègne. Et à Compiègne, je crois que là, c'est carrément le paradis par rapport à ce qui va se passer après, quoi. Okay. Après, il est déporté dans le convoi qu'on appelait le convoi des tatoués. Et il arrive à Flo. Enfin, il y a plusieurs camps. Il arrive à Auschwitz, Birkenau, Buchenwald. Il arrive à Flora. Et à la fin, quand les Allemands ont compris que c'était fini pour eux, voilà, ils partent sur les routes, tout ça, ils vont à Térésine. Mmh. C'est là qu'il va mourir. Il y a un truc que j'ai lu hier qui m'a. Enfin, je sais pas, j'ai pas le lien, ça me fait pleurer.
Mais pleurer en direct, c'est très bien sur Radio Liberté. Allez-y, Chantal, vas-y.
Non, ça a dit que la journée. Non, voilà, je voulais raconter qu'à un moment donné, il marchait, il était. En plus, il avait été battu, et donc il avait plus ses lunettes, rien. Et il y avait un camion pour les gens qui ne pouvaient plus marcher. Et à un moment donné, il a voulu, avec son ami qui était en tribussière, ils ont voulu monter dans ce camion. Et, un de leurs copains leur a dit: mais vous n'avez pas honte de prendre la place des autres, il faut marcher, vous pouvez marcher, tout ça. Et en fait, c'était pour les sauver, parce qu'ils savaient que ce camion, ça les amenait à la mort directe.
Donc, on est en 45 à Térésine, et il meurt du typhus le jour où les troupes américaines arrivent pour ouvrir le camp, c'est ça?
Ah, le jour, je ne sais pas.
Quasiment,
en tout cas, le camp était libéré.
C'est ça.
Et il y a des personnes qui l'ont reconnu.
C'est ça.
Fait, parce qu'ils ont vu la liste, et ils ont vu son nom, et ils ont dit, le poète de Robert Desnos, quelqu'un le connaît, il a dit, mais c'est moi. Mmh. Et comme ça, il est mort quand même entouré de ces personnes-là, quoi.
Et il y a un témoignage par rapport au bonheur qui raconte qu'il s'est trouvé avec un étudiant tchèque qui était là-bas, là. Il continuait, alors que c'était la situation, était absolument la plus catastrophique qui soit, à lire dans les lignes de la main des gens. Oui. Alors, je ne sais même pas s'il y croyait,
non,
là,
non,
en disant
pas,
bah, tout se passe bien, hein, c'est le bonheur.
Ça, il faisait ça tout le temps,
bonheur.
Il a fait ça dans tous les camps, il lisait de.
Non, c'est quelqu'un
c'était pour aider les autres. Quoi,
c'est pour la parallèle avec Robert, avec Apollinaire, là, qui est un maudit. Entre guillemets, j'ai horreur de ce terme. Ouais. Horreur de ce terme.
Il n'y a pas de poète maudit. Hein.
Oui, non, c'est le terme le plus abruti, mais qui pourrait servir à quelqu'un comme ça, et qui a servi à quelqu'un comme ça, mais qui tombe dans une situation terrifiante, où il est quand même actif et participant.
Ouais. Je voulais revenir sur vous disiez là à l'instant, avec beaucoup d'émotion. Je veux absolument citer ce livre-là, parce que ça va complètement dans le sens dont vous parlez. C'est donc c'est Isabelle Lacan donc, qui a écrit ce livre. C'est aux éditions Bruno Doucet, qui est donc un éditeur de poésie aussi.
Voilà.
Hein. Ça s'appelle Ombre parmi les ombres. Juste ça. Mai 45, libération du camp de Térésine. Un rescapé des camps de la mort, au regard bienveillant, croise un enfant lui aussi rescapé. Le dernier enfant survivant de Térésine. Cet homme s'appelle Robert Desnos. Comme un grand frère protecteur, le poète résistant qui se meurt trouve encore une fois les mots. Voilà. Je vous recommande cette lecture, c'est magnifique. Une exo-fiction, ce qu'on appelle un peu comme Mon Apôtre, voilà. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle part de quelque chose de réel, elle en fait quelque chose d'autre,
titre,
c'est magnifique. Ombre parmi les ombres.
Ombre parmi les ombres, voilà. c'est le poème de Desnos, Ombre parmi les ombres.
Oui.
Ce qu'on fait, on écoute Chantal, on est quoi, écouter Chantal, la chante, effectivement, et puis on va directement sauter par le flâneur des deux rives, et par l'enterrement d'Apollinaire, puisqu'il est enterré à deux pas d'ici, au Père-Lachaise.
Ouais.
La vie est une bobine de fil. J'ai eu 16 ans au mois d'avril. On m'appelle encore ma petite, mais je vois bien que tout va vite. Moi je voudrais rester toujours petite fille, jouer à la corde dans la cour ou bien aux billes. C'est si bon de désobéir, à cela m'ennuie de vieillir. C'est si bon de désobéir, à cela m'ennuie de vieillir. J'aime boire de l'encre et manger du papier buvard. C'est rosé mou, c'est rosé doux. J'aime boire de l'encre et manger du papier buvard, ça agace les dents, ça fait rêver d'un rêve ardent.
J'aime boire de
l'encre
et manger du papier buvard,
la vie est merveilleuse,
on est heureux,
on est heureux,
on est heureux.
J'aime boire de l'encre. est une bobine de fil. J'ai eu 16 ans au mois d'avril. L'année prochaine, je serai vieille. On m'appellera mademoiselle. Ça fait rêver d'un rêve ardent. L'année prochaine, je serai vieille. On m'appellera mademoiselle. C'est si bon de désobéir. À cela m'ennuie de vieillir. C'est si bon de désobéir. À cela m'ennuie de vieillir. C'est si bon de désobéir. À cela m'ennuie de vieillir.
J'aime boire de l'encre et manger du papier buvard. Ça agace les dents.
Et oui, au 01 43 71 89 40. C'est un album, Chantal. C'est quoi le titre de l'album? Robert Desnos, c'est quoi?
En fait, oui, il n'y a pas de titre, je crois. Oui, c'est Robert Desnos.
Et c'est trouvable,
une collection.
C'est, ouais, c'est trouvable.
C'est EPM.
EPM. Ouais, hein,
oui.
On peut le trouver
Très facilement.
À Publico, on peut le trouver. Hein, 145 rue Amiot, la meilleure librairie de tout Paris, bien sûr, bien sûr. Là, tout le monde le sait. Donc, effectivement, on revient à tout à l'heure ce que je disais. Là. Il a voulu être catholique, il a voulu être soldat, il a voulu être etc., etc. Il s'est retrouvé sur le front. Et enfin, je veux dire, il a tiré sur la corde, c'est le cas de le dire, ou sur le canon. Hein.
Oui, et puis il a voulu, encore une fois, montrer une image de lui qui était une image de bon français. Hein.
Viril,
de bon français, très clairement. Et puis, c'était aussi une manière pour lui, d'ailleurs, il a une permission qui va lui permettre, enfin, on l'imagine fortement, qui va lui permettre d'aller voir des personnes bien placées pour qu'il puisse obtenir plus rapidement sa naturalisation, qu'il l'obtient.
Il a ça, il vote absolument. Il a très tard. Il est en 17, c'est ça, non?
Oui, c'est ça. C'est ça. Et en l'occurrence, non seulement ça, mais c'est qu'en plus, il aurait voulu mourir pour la France, mais ça va lui être refusé pendant un certain temps, puisqu'il ne meurt pas pour la France de ses blessures, des suites peut-être éventuellement, mais il meurt comme chacun sait, de la grippe espagnole. Et c'est seulement par une sorte de grâce, et par ses appuis, j'allais dire post-mortem, qu'il va finalement être considéré comme étant mort pour la France. Donc jusqu'au bout, il y a cette volonté d'être vraiment le bon patriote, le bon français.
Et ça lui plaît la guerre?
Je suis pas sûr que ça lui plaise. Je suis pas sûr que ça lui plaise. Mais enfin, en tout cas, il fait son temps, quoi. Puis il est quand même assez privilégié. Il a quelques petites permissions. C'est comme ça qu'il va se retrouver à Alger pour rencontrer une petite nana qu'il a rencontrée dans un train, etc. Donc je suis pas certain. Il termine lieutenant. D'abord sous-lieutenant, il termine lieutenant après sa blessure. Et finalement, je pense qu'il l'a quand même vécu. Je raconte une histoire assez incroyable. C'est que dans la tranchée, lorsqu'il est blessé, en fait, il aurait dû être tué, parce qu'il se trouve que devant lui, il y a un autre soldat, un simple soldat, qui se prend tout dans la figure, et c'est entre guillemets grâce à ce pauvre soldat inconnu, c'est le cas de le dire, qui va finalement être réchappé de cette mort qui lui était promise. Parce que justement, il était un petit peu en arrière dans la tranchée.
Mais ce qu'on a dit, Franck, là, il n'est pas mort, il n'est pas mort à la guerre.
Non, non.
Ce qui aurait pu être, entre guillemets, héroïque.
Formidable.
On va revenir sur ce terme abruti de maudit, pas de maudit, il n'y a rien de plus bête que ça. Il est mort de la grippe espagnole.
Oui, il est mort de quelque chose d'assez commun à l'époque.
Démobilisé.
Ouais.
Il est démobilisé. Il a la fameuse rivalité avec Sandra qui est arrivée, etc. Ouais. Mais qui est même physique, parce que Sandra a perdu un bras. Il n'a pas perdu grand chose,
un petit morceau de tête, on va dire. Mais ce qui fait dire d'ailleurs à Picasso, c'est cette phrase méchante, désagréable. Picasso, c'était quand même pas un garçon très, très sympathique. Il fait dire à Picasso à propos de Sandra.
Ça vous plaît pas, ça? Il vous plaît?
Moi, j'aime beaucoup Picasso.
Oui, moi aussi, j'aime beaucoup.
Moi aussi, bien sûr.
Même personnage, j'aime bien.
Et qui fait dire donc à Picasso à propos de Sandra, Sandra est revenue avec un bras en trop.
C'est terrible.
C'est terrible.
Donc il revient, et là c'est le fameux boulevard Saint-Germain.
Oui, boulevard Saint-Germain. 202 boulevard Saint-Germain.
Alors, c'est chez lui ou c'est chez Jacques Il va se marier, là.
Il se marie un petit peu avant. C'est chez lui, oui. Mais c'est, il n'est jamais propriétaire. Il n'a jamais été propriétaire de rien. Apollinaire, il a toujours été en location.
La maison existe toujours. Et c'est au sixième étage.
C'est au dernier étage, avec une petite terrasse qui domine tout Paris, de laquelle il entend les bombes tomber. Parce qu'il faut savoir aussi que les bombes sont tombées.
De sa chambre, vous savez, vous ?
Ah, j'en sais rien du tout. Mais par contre, je suis sur le coup, là, pour essayer d'aller visiter cet endroit. Parce que, bon, il y a une plaque, hein, bien sûr. Au bas de l'immeuble, mais j'ai rencontré quelqu'un qui peut-être pourrait me faire... Ça me plairait beaucoup, évidemment.
Donc, il va mourir de vulgairement, banalement, de la grippe espagnole. Voilà. Et c'est le fameux enterrement qui va le promener.
Alors, l'enterrement, je l'ai imaginé, parce que je me suis dit, à l'époque, donc il est enterré au Père Lachaise, à côté d'ici, et donc il est au 202 boulevard Saint-Germain, voilà. Donc il faut traverser tout Paris. Et à l'époque, donc, c'était les chevaux, donc c'était le corbillard en bonne et due forme. Donc j'ai imaginé le parcours qu'il a dû emprunter.
Il traverse la Seine.
Et oui, Flâneur des Deux Rives. Il voit pour la dernière fois dans sa petite boîte en bois, il voit les bouquinistes qu'il a tellement fréquentés. Il traverse le pont, il va jusqu'à la Bastille, il remonte jusqu'ici, j'ose pas dire vous. Mais...
Et le grotesque de l'affaire, c'est que c'est le fameux que tout le monde connaît, Abba Guillaume. La guerre est finie et c'est Guillaume de Prusse.
C'est le Kaiser qu'on est en train d'insulter et non pas Guillaume Apollinaire. En train de mourir dans sa petite chambre entre.
Mais je veux dire qu'il y a un côté extrêmement romantique, grand chez Apollinaire. Mais il y a ce côté, il est rattrapé par ce côté grotesque. Il a fréquenté Jarry quand il était jeune. Il y a eu Bu qui est là, il y a eu la bêtise du Bu.
Mais même, regardez certains dessins, certaines caricatures qui ont été faites de lui. C'est presque du Jarry, c'est presque du Ubu d'ailleurs quand on le représente.
Bien sûr.
Physiquement quoi. C'est incroyable. La tête, la forme de la tête en forme de poire, quasiment. Mais on y est quasiment. En effet, vous avez raison de faire ce rapprochement. Ils étaient très potes tous les deux.
Évident,
en plus, ils ont fait pas mal de conneries ensemble, d'ailleurs. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est en effet une belle comparaison.
Mais il finit... à son enterrement, il y a quand même de la célébrité à venir. Breton est au courant. On trouve leur nom. C'est-à-dire que personne dans la littérature ne vient par hasard. Ça m'a étonné d'ailleurs. Je crois qu'on est en 1920, vous me corrigez, hein, on trouve le nom d'Aragon. Aragon est déjà là.
Ah, mais bien sûr.
Ils sont tous déjà là.
Aragon a signé la pétition pour le faire libérer.
C'est ça, voilà.
Par exemple.
Ils sont tous déjà là.
Gide aussi.
Il n'y a personne qui sort ex nihilo.
Non. C'est toute l'intelligentsia qui est présente et qui est en train d'émerger. C'est la nouvelle génération. On va dire.
Et pour revenir à Chantal, c'est très drôle parce que la génération Aragon-Breton naît en 96, on arrondit en 96, et Desnos naît en 1900. Donc il y a 4 ans, on ne joue pas sur le même registre. Ouais. Ils ont tous plus ou moins été Aragon-Breton. Comme Apollinaire, ils ont tous touché plus ou moins à la guerre. Desnos fait la guerre du baroque. Il va à la guerre du Rif.
Ouais.
Donc ils n'ont pas le même rapport.
Ils n'ont pas le même rapport au patriotisme.
Au patriotisme, effectivement.
Je ne suis pas sûre que Desnos aurait eu envie de mourir pour la France.
Non, bien sûr.
Je pense qu'en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, Desnos s'est engagé dans la résistance parce que c'était par rapport à l'humain. Mmh. Ce n'était pas par rapport à la France, je ne crois pas.
Ouais.
Alors ça, je ne crois pas du tout.
Oui, bien sûr. Là-dessus, les continents, ceux qui ont désaccord, mais on est parfaitement d'accord. Il y a un côté jusqu'au bout errant. Il y a un côté fraternel. Et puis avec un jeu de l'inconscient qui est absolument remarquable.
Ouais. Qui ne veut pas être récupéré non plus. C'est un personnage qui n'a jamais voulu, d'après ce que je sais,
qui n'a jamais voulu être récupéré.
Qui n'appartenait à personne, pour être clair.
Tout à fait.
Voilà. Oui, on va écouter Chantal. C'est vous ou pas vous? On va voir. C'est toujours le disque, hein,
oui.
Robert
Desnos. C'est pas toujours moi,
vous
en fait.
Vous allez me commenter si c'est vous. Hein.
Après le soir vient la nuit, l'eau chante à la fontaine, la lune se baigne au puits. Savez-vous la nouvelle? L'amour, la nuit, l'air, le vent, jour, nuit, et c'est la vie. L'amour, la nuit, l'air, le vent, jour, nuit, et c'est la vie. Savez-vous la nouvelle? Savez-vous la nouvelle? Savez-vous la nouvelle? Garcia Lorca va mourir. Savez-vous la nouvelle? Savez-vous écho va mourir. Les blés sont gorgés de soleil et dorment dans les greniers. Aimer, chanter, danser, il fera bon rêver tout l'été. Le linge est blanc sous nos doigts, les fruits et l'amour dans les bois. Il fera bon rêver tout l'été. Aimer, chanter, danser. Savez-vous la nouvelle? Savez-vous la nouvelle? Savez-vous la nouvelle? Garcia Lorca va mourir.
Savez-vous la nouvelle? Savez-vous la nouvelle? Savez-vous la nouvelle? Federico va mourir.
Ben merci Monique sur Radio Libertaire au 01 43 71 89 40. Chantal, c'est vous ça?
Oui.
Garcia Lorca?
Oui.
C'est bien.
C'est aussi l'autre, bon, notre poète fétiche.
Hein?
C'est mon autre poète fétiche.
C'est vrai, Lorca?
Ouais.
Magnifique, Lorca.
Ouais, j'aime beaucoup Lorca aussi, le personnage aussi. Ouais. Enfin, pour moi, ça, j'arrive pas à les dissocier, quoi, personnage et. Pas, je fais pas toujours ça, mais sur Death Note et sur Lorca, j'aime autant la personne que la poésie. Mmh.
C'était en même temps, il s'est dit, en même temps un texte très savant et en même temps très populaire, parce que sa fameuse troupe de théâtre, la Baraka,
oui,
a fait le tour de l'Espagne à l'époque. C'était très connu, c'était très c'était un phénomène qu'on peut, pas connaître actuellement. C'était voilà. On parlait de poésie, l'heure tiède, puisque vous m'avez demandé, je vais vous dire pourquoi je vais pas vous dire ce que j'en pense.
Parce que vous avez pas aimé.
Non, c'est pas du tout. Alors c'est très mal. Non, ça m'étonne d'un être aussi subtil que vous.
Subtil que moi,
non, c'est l'heure tiède, c'est l'heure tiède, publié aux librairies Galerie Racine. C'est parce que c'est moi, je ne sais pas le faire. Et je vais vous dire quelque chose.
Ah ouais,
je vais vous dire quelque chose. Lorsque Ferret a mis en musique Aragon. Aragon a écrit une très belle, un très beau texte. Ouais. Il a dit ceci. Il a dit la musique est une forme supérieure de la critique. C'est magnifique.
Ouais, ouais.
Ferret reprendra plus tard en disant que le désespoir est une forme supérieure de la critique. Mais passons. Et effectivement, je pense que la voix, Chantal, je pense que la musique est une forme supérieure de la critique. Et je pense que lorsqu'on est, on s'adresse à la poésie, soit on écrit un essai, soit on passe par le phénomène baudelairien des correspondances, mais je pense que tout ce qui est rajouté, ou un avis, est-ce bon, pas bon, etc., référence, est complètement superfétatoire.
Ouais.
Vous pouvez faire très rapidement, si ça vous tente, vous qui avez une belle voix, quelques passages, un court extrait, si vous voulez, de l'heure tienne, si vous voulez.
Ouais, ce qui est marrant, ce que vous dites, c'est que j'ai une personne aussi qui a fait une critique sur l'heure tiède et qui a eu la même réaction que vous. Et qui finalement a fait quelque chose d'assez drôle, à laquelle je n'aurais jamais pensé, qui a repris chacun des premiers vers de mes textes et qui les a mis dans l'ordre tels qu'ils ont été écrits. Et ça fait un texte à lui tout seul. Je trouve ça assez extraordinaire parce que du coup, finalement, il y a un sens... c'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à la limite, il n'y a pas forcément besoin de rajouter quelque chose par rapport à ça. Je tiens cependant, vous savez pourquoi à parler de ce texte-là, parce que pour moi, je ne vais pas dire que c'est une forme d'aboutissement, parce que ce serait d'une prétention absolue, mais pour moi, j'ai commencé par la poésie quand j'étais tout jeune, quoi, et j'ai jamais quitté. Presque des romans par obligation.
Par des piles, on l'avait compris. C'est pour ça qu'ils sont aussi mauvais, Franck Balladier.
Le salaud. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est des textes auxquels je tiens vraiment beaucoup, parce que c'est vraiment, ça fait partie de mon intimité. Quoi.
Alors, puisque vous êtes intime avec moi aujourd'hui, je vais être intime avec vous. Dans Les Hommes sans épaules, le 47 vient de sortir, mais dans un numéro précédent, moi j'ai écrit un Saint John Perse pendant 30 pages. J'ai mis exactement 25 ans pour l'écrire.
Et ben voilà.
Voilà, c'est donc voilà.
Bon, on est d'accord.
25 ans, voilà, on s'arrête là. Bah, c'était un plaisir de vous avoir tous les deux. Ça a été Chantal.
Oui, j'étais
c'était
un
pas
peu
trop dur.
Non, c'était à un moment donné,
c'était un plaisir. Bon, merci Monique. Oui, hein, merci d'avoir tourné à la prière là.
On remercie Monique.
Voilà, voilà. Donc on retrouve le disque où ça là,
chez EPM Musique.
Robert Gesnaud, ça peut être
voilà, trouve, voilà, hein. Tout à fait dans le catalogue de la poésie.
Ceux que ça intéresse vont directement rue 145 rue Ablot. Bah Franck Ballandieu, le Paris d'Apollinaire.
Voilà.
Et puis c'est le phénomène, on va y aller, c'est le phénomène de la marche, du pied.
C'est ça.
Du
c'est
pied,
ça,
marcher. Est-ce que ça vous inspire ce poète qui s'appelait Yves Martin?
Ah bah oui, bien
voilà,
sûr.
Qui était mon ami. Grand marcheur. Ouais. Marcheur. Petite parenthèse, Chantal, vous connaissez Yves Martin?
Non, pas du tout.
Alors, vite fait, ouais. Yves Martin, il mesurait 2 mètres, il pesait je ne sais pas combien de kilos, et il était employé chez un notaire. Mais comme il tapait une lettre tous les 15 jours, on l'envoyait porter les plis. C'était un homme gigantesque comme ça, qui s'attirait quand il était en bonne santé, hein, qui s'arrêtait aux terrasses des cafés, qui buvait son demi-litre de bière, qui lisait François, comme ça, et qui marchait. Et moi, je l'ai connu. Et on se rencontrait en marchant. Il avait repris le mythe de la marche, de la marche dans Paris. C'était Yves Martin. Œuvre absolument superbe.
Oui.
Complètement oublié. Yves Martin. Bon, voilà, c'était un plaisir.
Bah, merci à vous. Hein.
Et voilà, le Paris d'Apollinaire. Et puis à Pau.
Et l'heure tiède.
Leur tienne, mais bien sûr, mais voilà, le Paris, je fais tout, le Paris d'Apollinaire,
à Pau,
Castor Astra, et leur tienne.
C'est
bien,
parfait,
bien
vous
sûr,
êtes parfait.
Bien sûr, vous êtes tous bienvenus sur Apollinaire. Bon, lapsus, hein.
Enfin, je peux annoncer un concert le 15 avril.
Allez-y.
Hein, un concert de ce disque-là.
Ben
le
voilà.
15 avril, c'est 18 rue des Envierges en face de chez moi.
Ah,
j'ai
ben
jamais, fait un,
Envierges.
Ah, ben voilà, j'ai jamais fait un concert voilà, si près de chez moi.
Vous n'aurez qu'un spectateur, et je connais son nom, qu'un auditeur, Franck Ballandier, qui sera là.
Juste à côté.
Il sera là.
Ben ouais, en voisin.
Il sera là. Le pays des arts. Ouais. Oui, mais ouais. C'est marrant, sans faire du populisme, qui est une chose ouais. Absolument là. Ouais. Oui, c'est resté comme ça. On n'a pas bouffé entièrement. C'est bobotisé, mais on n'a pas bouffé entièrement Ménilmontant.
Ah non, pas du tout. Moi, j'habite à l'endroit même où Maurice Chevalier est né.
Ouais.
Voyez ça quand même.
Avec mon canotier sur le côté.
C'est tout pareil quoi.
Allez, et dès la semaine prochaine, et bon, on passera sûrement notre Frédéric Nietzsche avec Annick Stevens. Hein, et puis on fera la.
Super.
Voilà. Bye bye, à bientôt, c'était un plaisir. À
merci.
Bientôt.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bien, merci. Après la voix charmeuse, Monique, Serge au micro, comme d'habitude. Et Nicolas sera pas là aujourd'hui, mais il sera là bientôt pour la prochaine émission. Voilà. Donc aujourd'hui, nous recevons Maëlle, donc je vais être très court, puisque c'est elle qui va un peu se présenter. Disons que on l'a connue indirectement sur Internet, et on détaillera peut-être un peu plus par la suite, justement, sur quel site on peut accéder à ces informations. Elle a fait un voyage en vélo dans sa région, elle va nous en parler sur plusieurs mois, et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est qu'elle est allée voir sur le terrain des alternatives dans le milieu paysan de divers domaines. Donc on va lui demander déjà dans un premier temps de se présenter, parce que bon, on sait qu'elle a elle-même un projet paysan à venir, et puis après on verra avec elle un certain nombre des reportages qu'elle a pu faire dans divers lieux, parce que on est quand même dans une période, y compris d'ailleurs chez des jeunes, ceux qui la connaîtraient pas, vous verrez à sa voix qu'elle est jeune, l'envie de pas faire n'importe quoi dans la vie. On a déjà eu l'occasion d'en parler pour notamment avec les jeunes d'agro, je pense que Aéro Paris et d'autres d'ailleurs qui veulent pas forcément rentrer dans un système où leur vie n'existe plus, quoi. Et en particulier dans le milieu agricole, c'est encore plus difficile pour des raisons que je pense que les auditeurs connaissent bien. Donc on est très content de l'accueillir, parce que elle avait l'occasion de passer à Paris et on en a profité. Voilà. Donc Maëlle, je propose que tu parles un petit peu de ton itinéraire, et c'est quand même important pour comprendre par la suite les échanges que tu as pu avoir, voilà.
Eh bien, bonjour, merci beaucoup Serge. Donc je suis Maëlle, j'ai 27 ans et je suis originaire de la Mayenne, donc un petit département au nord-ouest de la France. Je suis fille de paysan, mon papa est depuis plus de générations d'ailleurs travaille sur cette ferme dans le sud Mayenne. Et donc moi j'étais pas du tout partie dans la paysannerie de base à 18 ans, j'avais plutôt envie de voyager, de découvrir d'autres horizons, d'autres cultures. C'était vraiment important pour moi de m'ouvrir à d'autres choses. En sortant du lycée, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, et donc je me voyais pas m'engager dans un cursus universitaire par défaut. Et donc je suis partie faire du woofing. Donc le woofing, c'est aller travailler contre 4-5 heures
par... C'est un mot que j'ai appris.
Oui, avec les radios.
Non, j'ai pas appris le fait en question, parce que j'ai des copains qui ont fait ça, à l'étranger d'ailleurs en l'occurrence, et qui allaient travailler chez des gens. Enfin bon, tu vas expliquer peut-être un peu plus en détail, ça peut intéresser les auditeurs, on sait pas, on sait jamais.
Bah ouais, en fait c'est un principe, que j'ai trouvé assez chouette, qui permet d'aller travailler. Alors chez des gens, ça peut être dans des fermes, mais des fois c'est aussi simplement des personnes qui vivent un peu à la campagne et qui ont pas mal de terrain. Des fois maintenant on en trouve aussi en ville, et donc 4-5 heures par jour de tâches en échange du gîte et du couvert.
Donc c'est vrai que... sinon il y a une association, enfin tu peux
oui en fait en c'est ça en général gens. C'est par pays pour woofing. D'accord. Donc il y a un site woof par pays sur lequel on s'inscrit, on paye une adhésion, voilà. Et ensuite on peut contacter des hôtes, on se crée un profil, on peut contacter des hôtes en disant je passe dans votre région à telle période, je sais à peu près faire ça ou j'ai envie d'apprendre à faire ça, et donc est-ce que vous pourriez m'accueillir.
Oui, avant que tu nous expliques un petit peu là justement ça, comment tu t'es lancé dans cette tournée en vélo là, quand même que tu nous parles un petit peu des pays que tu as vus avant. Moi, j'aime beaucoup les savoir quand les gens voyagent, ce qu'ils en ont un peu retiré.
Donc, à 18 ans, il y a eu ce premier voyage pendant 8 mois en Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas pourquoi. Enfin,